Pascal Peduzzi est notre grand invité ce matin. Il est géographe, spécialiste de la télédétection. Il arpente le monde, non pas avec ses chaussures, mais avec ses yeux et avec des données, des images satellitaires. Il voit la Terre depuis les cieux, Sarah Dirène.
Oui, et du coup, il est aussi sur tous les fronts, puisque ce docteur en sciences de l'environnement de l'Université de Genève est directeur du GRID. Alors le GRID, c'est la base de données des ressources mondiales concernant l'environnement. Le GRID dépend donc du programme des Nations Unies pour l'environnement. Le PNU, PNUE, créé en 1972 et qui est en fait la plus haute autorité environnementale au sein de l'ONU. Autant dire que Pascal Peduzzi passe tout son temps et son énergie à essayer de convaincre les gouvernements qu'il est impératif de sauver la planète. Alors la planète certes, mais la Suisse aussi, puisqu'il fait partie du pôle de la gouvernance de l'environnement et du développement territorial. Il nous dira tout à l'heure en quoi consiste cet engagement. Engagement également citoyen, à lire en tout cas le nombre de lettres de lecteurs qu'il a signées et que j'ai retrouvées sur le net. Alors, pour s'indigner de la fusion de telles communes ou sur la surconsommation de viande ou d'énergie. Alors, il prône toujours, Pascal Peduzzi, les énergies renouvelables. Il est également professeur à l'Université de Genève. Il dirige une équipe d'une vingtaine de chercheurs avec différents projets autour des impacts des activités humaines sur l'environnement. Tout à l'heure, nous parlerons justement d'un phénomène mal connu, peu connu, qui est la disparition du sable, un des grands défis des décennies à venir. Alors, vous le disiez, Adrien, notre invité arpente le monde à travers les images satellites. C'est pas tout à fait vrai. Il y a notamment une vingtaine d'années, Pascal Peduzzi a passé 3 semaines dans une tribu perdue en Indonésie, les Wana. Alors, je me demandais, Pascal Peduzzi, est-ce que vous les avez géolocalisés, ces Wana? Est-ce qu'on arrive à les voir via des images satellites?
Alors, je dirais que c'est mieux pas, vu au mieux, c'est tranquille. Alors, je suis surpris que vous ayez retrouvé cette expérience, parce que bon, c'était il y a plus de 25 ans. C'était une expérience inoubliable. J'ai appris beaucoup avec la visite chez ces Wana, qui vraiment vivent en symbiose avec leur environnement. Ils produisent pas de déchets. En plus, ils travaillent 3 à 4 heures par jour. Ça pose des questions sur notre mode de développement. Mais oui, on pourrait les voir par satellite. Maintenant, on a des satellites qui sont avec 35 cm de résolution, donc on pourrait voir leur hutte, on pourrait voir même les individus. Néanmoins, laissons-les tranquilles. En plus, c'est quelque chose que je ne referais pas. Il y a beaucoup de responsabilités à aller voir des populations qui ne sont pas en contact avec les autres civilisations. C'est que, vous savez, quand Cortés est arrivé au Mexique en 1519, ils ont massacré des Amérindiens, pas seulement avec leurs armes, mais surtout avec leurs germes, avec leurs microbes. Et en fait, la population du Mexique à l'époque était de 25 millions, elle est passée à 1 million à la suite de très fortes épidémies. Donc il faut faire très très attention quand on va voir des populations qui sont isolées comme ça. On porte une très grosse responsabilité.
Alors des populations isolées, vous n'en avez pas forcément visité d'autres. Par contre, vous avez fait pas mal de terrain, Pascal Peduzzi, dans d'autres pays.
Oui, par la force des choses, avec mon travail, j'avais commencé à travailler avec une ONG, suisse qui travaille au Burkina Faso sur la déforestation. Ensuite, j'ai travaillé sur le terrain en Australie pour la classification de la forêt tropicale. J'ai travaillé également à Madagascar pour l'étude des surfaces brûlées, au Pérou pour l'étude du changement climatique et de son impact sur les glaciers du Pérou qui approvisionnent en eau douce plusieurs vallées, sur l'érosion des plages en Jamaïque. Plusieurs études terrain quand même.
Mmh. Mais c'est-à-dire, Pascal Peduzzi, qu'en tant que géographe, on comprend mieux finalement le monde en faisant du terrain ou à travers la télédétection? Est-ce que les images aériennes remplacent le terrain?
Non, elles ne remplacent pas le terrain. En fait, rien pour la compréhension de la réalité. Il faut être en contact avec la réalité. Par contre, les images satellites permettent d'observer ce qui se passe sur de très grandes étendues. En fait, on peut observer le monde entier. On peut voir aussi les changements dans le temps. Et en fait, on peut remplacer un certain nombre de visites sur le terrain par des images satellites. Mais pour vraiment bien comprendre, il faut quand même vivre un peu cette réalité. Et c'est un petit peu comme regarder la télévision. Vous allez voir des super documentaires. Mais on peut faire des analyses. Mais il faut quand même comprendre, les enjeux sont multiples. La réalité, elle est multiple. Ce qu'on voit très très bien avec les images satellites, c'est les changements de couverture du sol. Et ça, c'est un outil extraordinaire.
Mmh. Outil extraordinaire, mais récent. Hein. Les images satellites datent du début des années 70. Ça a vraiment révolutionné la façon de faire de la géographie. Vous étiez jeune chercheur. Hein. Vous avez une cinquantaine d'années. Dans les années 70, les premières images.
Oui, ça a effectivement révolutionné la géographie, mais pas seulement. Je dirais que ça a révolutionné la manière dont on voit le monde. Si on prend la simple image d'Apollo qui a été prise en 1972, c'est la première fois qu'on voyait la Terre comme ça, sans aucune ombre. Et cette boule bleue perdue au milieu de l'univers, ça nous a fait prendre conscience en fait de l'unicité de notre planète et que si on voulait vraiment perdurer sur cet espace finalement assez réduit, il fallait vraiment s'occuper de l'environnement. Et c'est pas tellement étonnant que ce début des années 70 a marqué énormément de choses. On a eu par exemple cette première image d'Apollo, mais on a eu aussi donc les premières images des satellites, la série Landsat qui a été lancée par la NASA. Nous avons eu la conférence de Stockholm qui a donné lieu à la création de mon organisation, le programme Nations Unies pour l'environnement. Il y a aussi le Club de Rome qui a fait son fameux rapport Limit to Growth. Et il y a eu l'interdiction du DDT aux États-Unis. On voit que 1972, en tout cas le début des années 70, a été vraiment extrêmement révolutionnaire. Et cette vision du monde par les satellites a contribué également à cette vision d'un monde fini, où les ressources sont finies. On ne peut pas continuer à croître indéfiniment dans un monde fini. C'est Kenneth Boulding qui disait ceux qui croient qu'on peut avoir une croissance continue dans un monde fini sont soit des fous, soit des économistes. Il était lui-même économiste.
Ouais. Pascal Peduzzi, on l'a dit, vous êtes directeur scientifique, directeur du GRID de Genève, qui fait partie du programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, expliquez-nous justement, on comprend que ce grid a quelque chose à voir avec les satellites et le fait de regarder le ciel, de regarder la Terre par le ciel, mais expliquez-nous le rôle de ce grid, plus précisément.
Alors, le grid, c'est une structure très intéressante et improbable, c'est-à-dire que c'est une intersection entre le programme Nations Unies pour l'environnement, avec l'Université de Genève et avec l'Office fédéral de l'environnement, et c'est avant tout une équipe très soudée de 20 collaborateurs. Et qui effectivement transforme des données en informations. Alors, on va prendre toutes sortes de données géospatiales, qu'elles soient par des capteurs in situ, donc des stations de mesure, ou bien qu'elles soient par satellite.
Il n'y a pas que des satellites.
Non, il n'y a pas que des satellites. C'est vraiment un ensemble de données géospatiales qu'on traduit, pas seulement d'ailleurs en informations, parce que ça ne suffit pas. Il faut encore traduire finalement la science en émotion. Ça paraît peut-être fou ce que je dis, mais c'est vrai que ça suffit pas. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans au GRID, je pensais très naïvement qu'on allait mettre en rapport plein de données avec des graphiques qui montraient les tendances et des cartes qui montraient des changements, et on allait mettre ça sur la table des ministres et tout de suite ils allaient prendre des super actions qui allaient changer le monde. Et évidemment,
ça n'a pas marché.
C'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est un peu comme ça, mais aussi beaucoup de communication. Il faut toucher à l'émotion des gens, sinon on n'arrivera pas à avoir des actions qui sont rapides.
Mais justement, une image vaut souvent plus que 1000 mots. L'ONU, via le PNU, édite depuis les années 2000 justement des atlas, un atlas mondial de comparaison d'images à 30 ans d'intervalle. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce que finalement il y a, alors suite à Rio en 92, est-ce qu'on peut observer des améliorations?
Ah oui, absolument.
Ah, heureusement. C'est bien. Heureusement,
tout n'est pas que des indicateurs dans le rouge.
Alors, on a beaucoup, malheureusement, de choses qui vont dans le rouge sur la biodiversité, le climat, etc. Mais aussi, il faut voir qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés. D'abord, il y a un changement d'attitude. Quand j'étais étudiant en 1992, j'étais un étudiant en sciences de l'environnement en Australie, et on nous appelait des tree huggers, donc ceux qui embrassent les arbres, ou des sauveurs de pâquerettes. Aujourd'hui, les gouvernements et les entreprises font appel à nous pour avoir des recommandations pour améliorer leurs pratiques. Donc on voit que déjà il y a ce changement d'habitude. Ensuite, factuellement, le trou de la couche d'ozone est en train de se rétablir, la déforestation a ralenti en Amazonie, les énergies renouvelables connaissent un développement absolument spectaculaire. Par exemple, le solaire est moins cher que le charbon dans 60 pays en voie de développement. Donc c'est génial, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir besoin de passer par l'étape de centralisation de la production d'électricité, mais partir tous directement dans une fabrication décentralisée, génération décentralisée de cette énergie. Rio 92, c'était la création du processus sur le climat. Mmh. Donc maintenant, on a eu les accords de Paris, il faut évidemment encore les mettre en place. Les exploitations agricoles organiques augmentent de 13% par année.
Bio, on dit
ouais.
Nous.
D'accord. Ouais. Ouais, la sécurité alimentaire a augmenté de 45%. L'eau potable, l'accès à l'eau potable est passé de 77% à 90% en 2015. Donc, on voit énormément de progrès. En Suisse également, récemment, on a accepté la stratégie énergétique 2050. Quelle sagesse de la population suisse. Je suis très, très fier de mes concitoyens d'avoir accepté cet enjeu qui va vraiment nous rapporter également beaucoup d'emplois et beaucoup de prospérité.
C'est très bien. On est un peu positif avec vous, Pascal Peduzzi. Et on va s'intéresser à un phénomène peu connu après un peu de musique, la disparition du sable.
Ta peau sur la mienne et ma peau sur la tienne, au détour d'une étourderie. Ta bouche bohémienne sur ma bouche bohémienne, c'est l'amour, c'est le paradis. Dès que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains douce dessine ton corps sur le mien. Dès que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains douce dessine mon corps sur le tien. Tes mains madrilènes sous mes mains magiciennes, au velours de la mélodie. Ton lingot de lune sous mon lingot de miel, c'est le jour qui chante la nuit. Dès que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains douce dessine ton corps sur le mien. Dès que je me sens bien l'oreille entre tes seins, quand l'encre de mes mains dessine mon corps sur le tien. Ton corps sur le mien. Mon corps sur le tien. Ton corps sur le mien. Mon corps sur le mien. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Autour de moi, ma peau tout autour de toi. Dès que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains douce dessine ton corps sur le mien. Dès que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains douce dessine mon corps sur le tien. Dès que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains douce dessine ton corps sur le mien. Dès que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains douce dessine mon corps sur le tien. Ton corps sur le mien. Mon corps sur le tien. Ton corps sur le mien. Mon corps sur le tien.
Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi.
L'accès aux plages est interdit pour cause d'érosion sévère sur toute la côte du golfe.
D'une côte à l'autre, le sable disparaît à un rythme alarmant. Notre responsable de l'environnement fait le point sur ce phénomène.
10% des plages disparaissent. C'est ce que révèle une enquête exclusive menée par nos services de...
C'est un très grave problème pour des douzaines de communautés vivant sur la côte dans la région. Ces images donnent un aperçu de la...
Mais l'État rejette les plaintes selon lesquelles l'extraction du sable serait responsable de l'érosion spectaculaire des plages de Floride et de Californie.
Sand is what I like to call an unsung hero.
Le sable est ce que j'appelle le héros invisible de notre époque. Car il est omniprésent dans notre vie quotidienne et vraiment peu de gens en sont conscients.
Il est 10h27, vous écoutez CQFD sur la première. Le sable, enquête sur une disparition, extrait du film documentaire de Denis Delestrac, réalisé en 2015, une année auparavant, en 2014. Vous, Pascal Peduzzi, je rappelle que vous êtes directeur du GRID Genève, vous publiez au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement un rapport sur la raréfaction du sable. Alors c'est troublant, on a tendance à considérer le sable comme une ressource inépuisable, or il n'en est rien.
Non, en fait, notre civilisation est bâtie sur le sable. Effectivement, si vous regardez autour de vous, vous avez des routes, des bâtiments, des ponts, et tout ça, il y a plein de béton. Vous allez retrouver également dans l'électronique, même dans les cosmétiques, certaines fois, même pour fertiliser des sols. Donc, on trouve du sable absolument partout, et on en emploie une quantité absolument pharaonique. Pour donner une idée, le sable, c'est à peu près entre 40 et 50 milliards de tonnes par année, ce qui peut-être ne résonne pas énormément dans
c'est des chiffres tellement énormes qu'on ne comprend pas très bien, 50 milliards de tonnes.
Ouais, alors, on peut le traduire à déjà 18 kilos par personne et par jour pour l'ensemble des 7 milliards d'habitants que nous sommes sur cette planète. C'est vous dire, mais j'ai pas dépensé autant. Mais si vous regardez autour de vous, vous allez voir que oui. Et puis, ça, c'est une autre image, ce serait de construire en mur en sable de notre consommation annuelle. Et ce mur ferait 27 mètres de haut, 27 mètres de large sur toute la circonférence de l'équateur. Donc, vous voyez, notre consommation est absolument incroyable. Alors que le sable, il est produit d'un processus lent d'érosion. Donc, c'est des temps géologiques, l'érosion des glaciers qui frottent les roches et qui génèrent ces petits graviers puis ce sable. Pareil pour les vagues, l'action répétitive des vagues contre les coraux, contre le rivage qui produit cette érosion et ce sable marin ou côtier.
Comment on l'extrait, ce sable ?
Ça dépend où. Donc si on a des carrières où on va extraire le sable, il y en a une juste à côté de chez moi d'ailleurs qui fait un bruit phénoménal, on va l'extraire, ça peut être des pelles mécaniques, donc dans les carrières, ça veut dire qu'on fait un gros trou. Autrement, on
concasse donc
Non, le sable est le produit d'une érosion, on trouve par exemple ces moraines glaciaires, elles ont laissé des dépôts, où vous avez du gravier et du sable qui est simplement dans notre sol, donc on peut simplement le puiser. Après, on le concasse dans certains endroits, on fabrique du sable en concassant de la roche, mais il existe évidemment du sable déjà préparé qui est sur nos terrains. Ça, c'est sur la terre. Après, il y a du sable qui est pris dans nos fonds de rivière et dans nos lacs. Alors, on a vite compris que ça changeait beaucoup les choses, et en Suisse, on ne le fait pas. Enfin, on le fait au fond des lacs, mais pas dans nos rivières. Par contre, dans les rivières d'Asie, la plupart des rivières d'Asie subissent l'exploitation du sable, où ça a des impacts sur les berges de la rivière, qui subissent de l'érosion, sur le courant de la rivière, qui peut donc donner lieu à des inondations et des sécheresses, à une baisse du niveau des aquifères, à des changements de turbidité de l'eau. On extrait également le sable directement sur les plages, ce qui est une catastrophe écologique à plusieurs niveaux. Donc, c'est simplement des gens qui vont avec des camions et remplissent les camions de sable. Ou encore, au fond des océans, où on va chercher avec des énormes navires, on va pomper, on va aspirer ce sable. Et là, tous les organismes qui sont sur le fond marin, qui sont à la base de la chaîne alimentaire des poissons, vont être aspirés, crunchés comme ça. Et puis, des fines particules vont être rejetées. Donc, ça a des impacts sur la turbidité de l'eau, sur la biodiversité et donc sur la pêche.
Et pourquoi, Pascal Peduzzi, on n'irait pas directement dans le désert chercher du sable pour la construction?
Il y en a beaucoup du sable là-bas.
Mm-hmm. Absolument, mais il est très rond, il est très fin, il tient pas très bien. Si vous essayez de faire un pâté de sable, un château de sable sur une plage, ça tient bien parce que ce sable, il est un petit peu anguleux comme ça. Donc on arrive à faire des jolis châteaux de sable. Si vous essayez de faire pareil avec du sable du désert, vous verrez que ça viendra en tas informe. Donc il n'y a pas de cohésion dans ces grains qui sont beaucoup trop sphériques du fait de l'érosion éolienne. Alors, pour cela, on peut utiliser quand même du sable, certains sables de désert qui sont issus de sable plutôt basaltique. Ou alors, on peut additionner ce sable avec des produits chimiques qui vont faire qu'ils vont tenir un peu mieux. Mais globalement, c'est plutôt le sable issu de l'érosion glaciaire ou de l'érosion côtière qui est utilisé pour la construction, avec quand même le problème du sable marin qui contient du sel et donc qui n'est pas très bon pour la construction du fait de l'érosion des tiges de métal qu'on trouve dans le béton.
Alors justement, donc ça veut dire qu'il faut donc le laver, c'est ça ?
Et oui, du coup, on va utiliser beaucoup d'eau douce.
Mmh. Et le seul problème, alors donc on va utiliser de l'eau pour nettoyer ce sable. En plus de ça, ce sable côtier, on va le voler. Il y a toute une mafia autour de ce sable des plages qu'on vole.
Alors ça, c'était ma grande surprise quand j'ai travaillé en Jamaïque sur l'érosion des plages, qui était principalement due, ceci dit, à le manque de respect qu'il y avait eu pour l'écosystème, c'est-à-dire la destruction des coraux et l'écosystème à l'intérieur des terres. Mais quand même, lors d'une enquête au sud de cette partie qu'on étudiait, dans un village de pêcheurs, ils nous ont dit que des hommes étaient venus en une nuit, ils ont menacé avec des armes et qu'ils ont volé leur plage durant la nuit avec simplement un trax et des camions. Et j'étais totalement abasourdi qu'on puisse menacer en fait quelqu'un pour le sable. Ça paraît tellement banal en fait comme matériel. Mais en fait, les enjeux sont de plus en plus importants autour du sable. Et effectivement, dans certains cas, comme les pays ont vu qu'il y avait des énormes impacts environnementaux, certains pays ont arrêté l'exportation de sable. Et du coup, vous avez un trafic illégal de sable qui s'est organisé.
Oui, parce qu'on consomme, et vous le disiez, hein, nous consommons, Pascal Peduzzi, de plus en plus de sable. Il y avait aussi une petite image, 30 000 tonnes de sable pour construire une autoroute.
Un kilomètre.
Un kilomètre, c'est ça?
Un kilomètre d'autoroute. Aussi, autre image, Adrien, la Chine, durant ces 4 dernières années, a consommé autant de sable que les États-Unis en un siècle. C'est-à-dire qu'on construit, on construit, une fois que ce sable est emprisonné dans du béton, peut-être rappeler que le béton, c'est un tiers de ciment, 2/3 de sable, une fois que ce sable est dans le béton, il est mort à jamais ou on peut l'utiliser?
Ah mais il n'existe plus en termes de ressources de sable, c'est-à-dire que du coup il a été transformé chimiquement et c'est du béton. Par contre, on pourrait refaire de la poutre de béton et récupérer une partie de ceci pour la construction. La raison pour laquelle on le fait peu, c'est que finalement le sable est gratuit à l'extraction, on ne paye pas pour ce matériel, alors qu'il faudrait payer pour réduire ce béton et le recycler.
Ça se fait un peu hein, de l'éco-béton,
oui,
on a fait des sujets là-dessus, ça existe, ça se développe.
Oui, ça existe, mais ça se fait encore relativement peu. Et ce qu'il faudrait pour essayer de rétablir un peu l'équilibre, c'est de taxer finalement cette prélévation du sable dans l'environnement pour ensuite subventionner des pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement.
Toujours principe que la nature est gratuite. Hein. C'est toujours cette grande idée que tout ce qu'on prélève dans la nature, c'est gratuit.
Oui, on a de la peine à payer les externalités. Hein. Je prends l'exemple des vols low cost, ils s'appellent low cost alors qu'en fait c'est pas vrai, c'est simplement que les coûts sont bas parce qu'on paye pas les vrais coûts, on paye pas le kérosène pour son extraire, il est même pas taxé le kérosène d'ailleurs, on paye pas les coûts engendrés par les émissions et les changements climatiques, on paye pas les coûts sur la santé de la pollution de l'air, on paye pas le bien-être et la valeur immobilière des logements qui s'abaissent avec le bruit autour des aéroports. Donc si on devait payer vraiment tous ces coûts, internaliser finalement ces coûts, on n'aurait plus des vols dits low cost. Et c'est la même chose en fait pour la plupart des matériaux. On ne peut pas pêcher plus de poissons qu'ils ne se reproduisent, on ne peut pas couper plus d'arbres qu'ils ne s'en reproduisent. À un moment donné, vivre comme ça sur le capital, ce n'est pas possible. Il faut vivre vraiment sur les intérêts de la nature, donc sur les ressources qui sont renouvelables, et pas puiser dans ce capital, sinon à un bout d'un moment, on va dans le mur.
Et puis arrêter de construire, de prendre du terrain sur la mer, de prendre du sable dans la mer, et de construire, d'utiliser du sable pour les constructions. C'est ça aussi.
Alors il y a des choses qui sont effectivement assez intéressantes à observer par satellite. C'est le développement de Singapour qui, depuis 1970, a augmenté entre 20-25% de surface de territoire en plus en prenant du sable en provenance d'Indonésie, de Malaisie, Thaïlande et même aussi loin que le Cambodge. Mais ça a donné lieu à des problématiques, des tensions diplomatiques. En fait, ces pays ont arrêté l'exportation de sable vers Singapour du fait des impacts environnementaux. On peut également voir à Dubaï, on voit, c'est assez spectaculaire, ils ont fait des structures en forme de palmiers.
Des îles gigantesques. On les voit du ciel.
Chacune de ces structures, il y en a deux en forme de palmiers et une en forme de carte du monde, chacune de ces structures, c'est 1,2 milliard de tonnes de sable. Et là, on peut imaginer la quantité d'impact qui a été fait en raclant ce sable des fonds marins dans la mer Rouge.
Alors vous avez fait, Pascal Peduzzi, en 2014, donc ce rapport pour le PNUE. Suite à ce rapport, qu'est-ce qui s'est passé? Les gouvernements ont réagi, on a mis en place des réglementations?
Alors, dans un premier temps, il s'est passé rien du tout. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de prêcher dans le désert, parlant de sable. Et ça a pris beaucoup de temps. Et en fait, c'est uniquement récemment, les deux dernières années, où là, il y a eu tout à coup une accélération de l'intérêt pour cette problématique. Et actuellement, on voit les enjeux diplomatiques. Je dis, plusieurs pays arrêtent de l'exportation du sable. Donc, on commence à se rendre compte qu'il y a un problème lié à cette surexploitation de cette ressource. Pour la plupart des gouvernements et des décideurs, le sable, c'est quelque chose qui était banal. Et qu'est-ce qu'on venait nous rajouter encore? Une problématique, on a déjà assez de choses à gérer avec le climat, la biodiversité, l'éducation, la santé, etc. Ce qui est vrai. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pour le sable. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des contacts qui sont pris. On essaye d'organiser maintenant une réunion d'experts pour avoir des recommandations à pouvoir donner au pays. On aimerait contacter les principales entreprises productrices de sable pour essayer d'obtenir des standards d'extraction de sable. C'est-à-dire qu'on ne veut pas arrêter cette industrie. De toute façon, ce n'est pas possible. Mais on aimerait la cadrer, qu'il y ait des législations qui puissent dire, ok, le sable, il faut l'extraire de telle manière, à tel endroit, faire des études d'impact sur l'environnement. Peut-être essayer d'avoir un label, d'ailleurs, comme on a un label pour l'exploitation des forêts, le fameux Forest Stewardship Council.
C'est presque un sujet en soi, puisque ça a pas mal été détourné aussi, ces labels-là.
Oui, alors après, il faut avoir la possibilité de faire du monitoring, mais ce n'est pas impossible. Et d'ailleurs, certaines entreprises s'intéressent à ce monitoring, donc ça pourrait même être sujet à faire des développements économiques intéressants.
Mais vous dites, Pascal Peduzzi, il faudrait extraire le sable de telle manière plutôt que de telle autre. Comment faudrait-il extraire ce sable marin qui pose pas mal de problèmes, notamment ?
Alors, si on fait des études d'impact sur l'environnement, ce qui est réalisé en Europe, par exemple, on peut voir des endroits où il y a une forte production de sable qu'on peut utiliser, qui aura toujours un impact sur l'environnement, mais on peut minimiser ces impacts et en leur disant quelle est la localisation où on peut aller extraire ce sable, quelle quantité on peut en extraire, et puis gérer ceci dans une ressource de manière très intelligente. Pour l'instant, on n'utilise pas ça de manière... Cette extraction n'est pas faite de manière intelligente. D'ailleurs, dans certains cas, c'est simplement prélevé sur les plages, qui est probablement la chose la pire qu'on puisse faire. Il faut extraire le sable dans les endroits où il est intéressant de l'extraire. Et puis, on peut réduire en fait notre consommation de sable. Il y a plusieurs solutions qu'on peut apporter. On peut trouver des alternatives, etc.
J'allais dire, l'accélération paraît faramineuse. Sarah parlait de la Chine en 4 ans qui a consommé autant de sable que les États-Unis en un siècle. Si ces chiffres sont précis, ils sont incroyables.
Oui, en fait, on a triplé notre consommation de béton en 2 décennies. Et donc, on voit une certaine... Et en Chine, c'est absolument exponentiel. Donc, actuellement, la Chine, c'est 57% de la consommation de béton mondiale.
Mais vous parlez d'impact environnementaux. L'érosion est très importante.
Alors, suivant où vous allez extraire le sable, oui, ça peut occasionner une érosion côtière. Donc, le sable, il a cette particularité d'être à la fois en solide et en liquide. On le voit bien quand on prend une poignée de sable, ça glisse entre les doigts. Donc, imaginez que vous faites un trou, vous pompez du sable au large d'une île constituée de sable. Ce trou, petit à petit, va être comblé par un glissement lent du littoral de l'île vers ce trou. Et donc, ce faisant, vous allez créer une érosion côtière, voire, dans le pire des cas, une disparition de cette île.
Donc une accélération énorme. Et puis ces bateaux qui aspirent le sable au fond des océans, c'est aussi des machines incroyables au niveau consommation d'énergie. C'est des trucs complètement invraisemblables. Le sable remonte sur le pont, il est trié sur le pont. Enfin, il faut une énergie incroyable, non ?
Ouais, déjà c'est un énorme aspirateur. C'est très impressionnant. Ça va vous stériliser en fait tout le fond marin et puis même le volume d'eau, parce que ça va rejeter ensuite les particules les plus fines qui ne sont pas intéressantes économiquement, donc vont être rejetées à la mer, donc ce qui va faire une espèce de plume de poussière à l'arrière de ce navire qui va créer donc un changement de turbidité qui est évidemment défavorable pour la biodiversité. Et vraiment puiser comme ça sur ces fonds marins qui sont au début de la chaîne alimentaire, tous les petits poissons se nourrissent des petits vers qui sont là-dedans, donc les plus petits poissons vont nourrir les plus gros. Donc finalement, on est en train de saccager la base même de la vie marine en touchant comme ça au fond marin.
Alors la communauté internationale a pris conscience des questions du réchauffement climatique puisqu'il y a un groupe d'experts internationaux sur le climat, le GIEC. Est-ce que, à votre avis, Pascal Peduzzi, il faudrait créer un groupe d'experts internationaux sur le sable ?
Alors j'avais fait partie du GIEC sur les rapports, c'est vrai que c'est très intéressant la manière dont fonctionne le GIEC pour arriver à faire l'état de la science, à faire des recommandations, et je crois que c'est assez exemplaire. Tout le monde aimerait reproduire ce qu'a fait le GIEC. Maintenant, on a commencé en 1990 avec le GIEC, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille dessus. Le sable, il va falloir, je pense, aller aussi assez rapidement, mais je pense pas qu'on a nécessairement besoin de 3000 experts sur le climat. Les questions sur l'extraction du sable sont moins compliquées que les enjeux climatiques.
Oui, la machine climatique est très complexe.
Exactement, ouais. Le sable, c'est à mon avis une vingtaine ou une trentaine d'experts autour de la table qui nous font des recommandations devraient être déjà suffisants pour arriver à avoir une idée de ce qu'on peut faire comme action. On utilise beaucoup d'informations, beaucoup de données, et surtout dans mon bureau, mes collaborateurs travaillent sur un monde en grand nombre de données, mais c'est comme pour le GIEC, on n'avait pas besoin de plus d'informations. Au troisième rapport du GIEC, on avait déjà 66% de confiance que l'homme avait une influence négative sur le climat. Le quatrième rapport, c'était 90% de confiance. Le cinquième rapport, c'était 95% de confiance. Souvent, on se pose la question, est-ce qu'il nous faut plus de données ?
Non. Il faut agir. Quoi.
Il faut agir. À un moment donné, il faut juste agir. Et c'est ça. Donc peut-être qu'une vingtaine d'experts sera largement suffisant pour nous dire ce qu'il faut faire. C'est pas aussi compliqué que ça. Et surtout que les alternatives existent.
Le temps d'un peu de musique et on va quitter les plages de sable fin, parfois trop fin, on l'a compris, pour se rendre en Suisse et comprendre les impacts du changement climatique ici, au niveau local. Toujours avec Pascal Peduzzi. Yeah. Et ça fait toujours autant plaisir. Les fabuleux, les Fab Four, les Beatles, avec cette chanson Get Back à 10h45 sur la première CQFD. Dernier volet de notre rencontre avec notre invité du jour, le scientifique de l'environnement Pascal Peduzzi. Vous êtes géographe spécialiste en télédétection, on l'a compris, directeur du GRID Genève, qui fait partie du programme des Nations Unies pour l'environnement, professeur à la faculté des sciences de l'environnement à l'université de Genève. Vous êtes également membre du, comme si ça suffisait pas, hein, membre du pôle de la gouvernance et de l'environnement du développement territorial en Suisse. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce pôle, Pascal Peduzzi ?
Alors, on collabore avec beaucoup de gens. Le centre, c'est vraiment l'interdisciplinarité dans l'environnement. Donc, c'est pour ça que je fais partie de plein de choses. Mais en fait, finalement, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire je m'occupe d'environnement. Et dans ce pôle, en fait, on travaille. Il y a quatre pôles à l'intérieur de l'Institut des sciences de l'environnement. Il y a de l'économie, le management, l'information environnementale, dont je fais aussi partie d'ailleurs, la science. Et puis ce pôle de gouvernance environnementale et de développement territorial. Donc là, on va mettre ensemble différents chercheurs qui vont travailler sur soit du point de vue du droit, de la géographie, de l'économie politique, de la sociologie, de s'intéresser à pourquoi finalement et comment on peut améliorer cet environnement et autour de thèmes tels que la gouvernance environnementale, sur le développement durable et sur le développement territorial. Donc on va utiliser l'interdisciplinarité, mais aussi l'analyse spatiale et les systèmes d'information.
C'est-à-dire que vous allez analyser tout comme pour le GRID, hein, vous analysez les images spatiales, les capteurs, toutes ces méga données qu'il faut traiter. C'est des millions et des millions et des milliards d'observations, des données gigantesques.
Alors effectivement, on a de plus en plus d'informations à disposition, de données à disposition. Quand j'ai étudié au tout début la télédétection, il y a très longtemps, on nous avait donné deux images satellites, parce que ça coûtait très cher, et donc on connaissait chaque pixel par leur prénom. Maintenant, un seul de mes collaborateurs, Bruno Châteneau, là, traite 6500 images en quelques mois. Donc on a pu automatiser ces processus, on fait tourner en fait des algorithmes qui nous permettent de traiter ces images automatiquement, de traiter aussi d'autres styles de données pour aller directement de la donnée à l'information.
Mais par exemple, des données sur des bactéries, des données sur une biodiversité qu'on verrait vue du ciel.
Alors non, principalement donc là je parlais des images satellites, mais ça peut être également de transformer automatiquement des données qui vont être prises sur par des capteurs aussi ou par des modèles de simulation, de les transformer en informations, c'est-à-dire en graphiques qui soient mis à jour automatiquement. Par exemple, sur notre site, vous trouverez la surface de la banquise dans l'Arctique, l'océan Arctique. Tous les jours, vous aurez la mise à jour de cette information qui se fait automatiquement. Donc il faut arriver maintenant, surtout avec nos salaires en Suisse, hein, il faut arriver à traiter de l'information automatiquement pour avoir quelque chose qui soit aussi pertinent au niveau économique, parce que je dois faire tourner aussi ce centre et il tourne aussi sur des projets. Donc il faut trouver des moyens d'être concurrentiel.
Qu'est-ce que le Swiss Cube, Pascal Peduzzi ?
Le Swiss Data Cube, c'est une compilation de l'ensemble des images satellites qui ont de Landsat, de Sentinel 1, Sentinel 2, qui sont des satellites
dont on parlait hier, puisque Sentinel 3B a été mis en orbite avant-hier soir.
Donc on est en train de mettre tous ces images satellites dans une base de données qui nous permet ensuite de faire des analyses à travers le temps. C'est-à-dire qu'on va plus simplement faire des analyses d'une image, on va travailler, si vous voulez, comme en film. C'est-à-dire qu'on va regarder comment l'évolution de l'environnement, de la couverture du sol, de l'agriculture, du bâti, etc.
En Suisse,
le temps. Ben, pour l'instant, on l'a fait en Suisse. Alors, il y a un autre data cube qui existe, qui a été fait, le premier, qui a été fait en Australie. Vous imaginez la taille. Et ils ont gentiment mis leur code gratuitement à disposition, ce qui fait qu'on a suivi ce Swiss data cube pour former ce Swiss Data Cube, qui est donc le deuxième pays qui est complètement réalisé au niveau de l'étendue de toutes ces données géographiques satellites.
Je me rends compte, Pascal Peduzzi, que ma question est un tout petit peu saugrenue, mais comment va la Suisse vue du ciel alors ?
Alors, ça dépend dans quel sujet. Elle se porte bien en termes de forêts, parce que nos forêts se consolident, s'accroissent. Par contre, le bâti grignote assez rapidement. Chaque année, c'est à peu près la surface du lac de Mora qui est grignotée. Et un tiers de ce bâti, ça concerne nos infrastructures pour la route, pour les transports.
Mmh. Un tiers, c'est la route. Donc, c'est pas forcément les villas. On pointe toujours du doigt les villas en périphérie urbaine. C'est pas le plus gros problème pour le mitage urbain.
Non, alors on veut toujours faire de la verticalité. Après, on peut très bien mettre, comme ils font à Bâle, des toits végétalisés, hein, regagner un petit peu comme ça de la biodiversité.
Et à Lausanne aussi, puisqu'on en parlait hier dans CQFD.
Décidément.
On est tout connecté, nous aussi, hein, c'est incroyable.
Génial. Effectivement, il y a une prise de conscience fabuleuse hein, des médias. Vous me demandiez ce qui avait changé depuis 1992, mais maintenant, chaque jour, vous avez une thématique dans les médias qui traite de l'environnement, et ça, c'est vraiment réjouissant.
Oui, et donc ça se voit par rapport à la Suisse, Pascal Peduzzi, ça se voit sur les images satellites.
Oui, on peut faire des études de ces changements, donc de l'accroissement de cette emprise au sol du bâti. Donc ça intéresse évidemment nos gouvernements qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut mieux réguler, mieux gérer en fait notre biodiversité. Là, en Suisse, nous avons un gros problème de biodiversité. C'est un petit pays, nous sommes nombreux et assez densément peuplés, et donc nous laissons relativement peu de place à cette biodiversité qui est fragmentée.
Mais en même temps, magnifique, Pascal Peduzzi, nous sommes de bons élèves en matière de biodiversité, c'est ça?
Je ne dirais pas ça. La Suisse, en fait, parce que nous sommes un pays riche, nous consommons énormément. Alors, on fait des progrès à l'intérieur du territoire. On améliore la situation de notre territoire, mais ce faisant, en fait, nous, à travers notre consommation de produits, nous importons des produits qui, eux, causent des dommages à l'extérieur. Et en fait, plus de la moitié de nos impacts, qu'ils soient climatiques ou sur la biodiversité, sont générés dans d'autres pays du fait de notre consommation.
Notamment la Chine, j'imagine.
Alors la Chine, parce que c'est l'usine du monde, donc effectivement, mais la Chine va également demander des matériaux qui vont provenir de toutes sortes de pays, toutes sortes d'endroits, et donc générer des impacts très importants sur des forêts, sur des mines, etc., sur la qualité de l'eau dans l'ensemble de la planète, finalement.
Oui, c'est-à-dire qu'en Suisse, Pascal Peduzzi, on vit à crédit. Oui. Concernant en tout cas l'environnement.
Effectivement. Donc récemment, nous avons fait une étude qui a été mandatée par l'Office fédéral de l'environnement pour savoir quelle était la part de la responsabilité de la Suisse dans les impacts mondiaux, c'est-à-dire à quoi on a droit finalement comme ressources en tant que population mondiale, on a droit à un certain nombre de ressources. L'idée, c'est de ne pas dépasser ces fameuses limites planétaires, peut-être qu'on en reparlera un peu. Et on a regardé en fait combien ce que dépensait la Suisse par rapport à ce qu'elle avait droit. Et là, on a explosé notre budget, c'est-à-dire c'est pas juste 1,2 fois plus, c'est 22,7 fois plus pour ce qui est du changement climatique, 14,5 sur la signification des océans. Vous me direz, on n'a pas d'océans, ça ne nous empêche pas de les impacter à travers nos émissions de CO2. Et puis, pour la biodiversité, c'est deux fois plus que ce qu'on a droit, effectivement. Donc, on est à crédit, on vit à crédit en utilisant des ressources qui sont en train de s'épuiser.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, concernant le GIEC, Pascal Peduzzi, alors c'est bien joli, les chiffres, les indicateurs, mais fondamentalement, aujourd'hui, c'est pas finalement un changement radical de mentalité qu'il faut espérer pour vivre et continuer à vivre dans ce monde, et vous le disiez au début d'interview, hein, qui n'est pas sans limite.
Oui, alors il va falloir vraiment changer plusieurs choses, en fait, va faire changer notre style de vie. Et ça ne veut pas dire qu'on va aller en arrière, hein. C'est pas comme dans la chanson Get Back que vous venez de passer. on va aller de l'avant, c'est-à-dire que c'est plutôt les énergies fossiles qui sont des énergies du passé. Il va falloir vraiment aller vers des énergies renouvelables, il va falloir changer donc notre style de vie. Aussi la technologie, on peut améliorer la technologie pour améliorer les rendements, il faut améliorer notre gouvernance, et puis on peut éviter surtout le gaspillage. Vous savez qu'on utilise entière à peu près de notre nourriture est gâchée, hein, 30%, ça fait 222 millions de tonnes chaque année pour les pays occidentaux, c'est l'équivalent de toute la production de nourriture de l'Afrique subsaharienne. Donc on fait un gâchis absolument énorme de denrées. Donc la première chose à faire, c'est d'arrêter le gâchis, et puis de ne pas croire que plus de matériel va amener plus de bonheur. En fait, j'ai rencontré beaucoup plus de gens pauvres heureux que de riches heureux. Ceci dit, mon analyse est biaisée parce qu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Donc 1% des richesses est accumulé, hein. 1% des personnes accumulent 50% des richesses et 10% le 90% des richesses. Donc il faut vraiment changer la manière dont on mesure notre développement. Il n'est pas souhaitable d'être plus riche, mais il est souhaitable d'avoir un meilleur bien-être. Et je crois que c'est vers ça que nous devons tendre.
Mais vous le disiez, Pascal Peduzzi, concernant le grid, votre boulot, c'est aussi d'aller alerter les gouvernements, la communauté internationale, hein, avec des rapports, avec des chiffres. Par rapport à la Suisse, et là au sein du pôle dans lequel d'un pôle avec du droit, des géosciences, de l'économie, et de la politique, est-ce que vous arrivez à convaincre les politiques suisses qu'il faut qu'il est important qu'on soit dans un changement, qu'on aille vers un changement.
Alors oui, et d'ailleurs la Suisse a ratifié nombre de conventions environnementales. Et à ce niveau-là, au niveau international, la Suisse effectivement est un bon élève. Après, je vous l'ai dit, on a voté la stratégie énergétique 2050.
Oui, c'est nous.
Nous sommes beaucoup, beaucoup impliqués là-dedans pour essayer justement d'expliquer. C'est pas tout de savoir quand vous êtes en universitaire, il faut aussi faire savoir, il faut partager ce savoir. Et l'avantage de partager ce savoir, c'est que ça coûte pas. À la fin d'un cours, je suis pas plus bête qu'au début du cours, donc j'ai pu partager une connaissance sans m'appauvrir, ce qui n'est pas le cas de d'autres choses que l'on peut partager. Donc c'est très important de convaincre. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de résistance, et on voit par exemple sur la stratégie énergétique 2050, maintenant on voit que certains parlementaires veulent changer les normes de sécurité des centrales nucléaires pour les prolonger. Donc c'est un combat qui est continu, et il ne faut jamais laisser tomber la garde.
Tout à l'heure, on a joué les Beatles Get Back, et vous dites non, on ne va pas vers le passé. Il y a une autre chanson des Beatles qui s'appelle Revolution. C'est ça que vous prenez, Pascal Peduzzi, la révolution?
Oui, mais une révolution pacifique et écologique.
Oui, et aller peut-être plus vers une économie circulaire, une économie de la connaissance, vous venez d'en parler, plutôt qu'une économie linéaire.
Alors, nous avons beaucoup de chances, beaucoup de possibilités dans les réponses. Hein. C'est-à-dire que nous pouvons effectivement, et nous devons aller vers une économie circulaire, parce que cette économie linéaire où on prend les ressources, on les utilise et on les jette par la suite, ça ne peut pas durer. Donc, il faut vraiment inscrire les choses dans un cercle. Il faut aussi réduire, refuser, en fait, il n'y a pas tout qu'on doit acheter, c'est pas parce qu'on nous essaie de nous le vendre, hein. Comme disait Coluche, dire qu'il suffirait qu'on ne l'achète plus pour que ce soit plus vendu, effectivement, il y a des choses où il faut résister, choisir ses produits, etc. Et ce n'est pas dire en retour en arrière, absolument pas, c'est plutôt vraiment aller vers un changement qui est meilleur, et où on peut vraiment améliorer aussi notre qualité de vie, donc d'aller vers quelque chose plus qualitatif que quantitatif. Et la plupart des choses qui comptent pour moi et qui comptent pour les gens, c'est des choses qui ne se comptent pas. Hein. On parle de l'amour, le temps qu'on passe avec les amis, la santé, les balades en forêt, tout ça, c'est des choses qui amènent du bien-être et qui finalement ne demandent pas de la consommation. Donc je pense qu'on peut vraiment choisir comme consommateur. Et maintenant, il y a une autre chose où la Suisse peut faire énormément, c'est que nous sommes un pays très très riche. Et si nous prenons en fait le pouvoir économique de la Suisse, hein, la Banque nationale Suisse, elle gère plus de 840 milliards de francs. Nos fonds de prévoyance, 820 milliards de francs. Vous voyez qu'on pèse 1600 milliards. Imaginez si on arrêtait d'investir dans des énergies fossiles ou dans des choses détrimentales de l'environnement, l'impact que ça pourrait avoir. Et imaginez si on investissait une partie de ces fonds dans de l'énergie renouvelable, les changements que nous pourrions opérer. Donc la Suisse, même si c'est un petit pays, elle peut faire énormément pour améliorer les choses pour notre climat et pour notre environnement. Et c'est vraiment d'autres aussi notre responsabilité, c'est même un devoir.
Merci Pascal Peduzzi, professeur au département de géographie et environnement de l'Université de Genève et directeur du GRID Genève, donc qui fait partie du programme des Nations Unies pour l'environnement. On l'a bien compris ce qu'était le GRID maintenant. Précisons que Prise de Terre consacrera le 19 mai prochain une émission autour de la disparition du sable, avec notamment votre contribution, Pascal Peduzzi. Je vous souhaite une très bonne journée à Genève. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sarah Dirène.